Bienvenue à Escale 16-17 avec Fulgence Blas au micro, la dernière de la semaine, c'est vendredi bien évidemment. Voilà, en première partie d'émission, je vais recevoir Michel Barbeau, réalisateur, qui va nous parler de la série La fabuleuse histoire des sciences au Québec. Voilà, c'est déjà en ligne pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, allez-y vous brancher là-bas sur Savoir Média en ligne et puis vous allez regarder tous les épisodes, au moins une dizaine d'épisodes, chacun de... Voilà, de combien là? 15 minutes, si je me trompe pas. Voilà, c'est déjà en ligne, depuis le 14. Alors, j'espère que la technologie va nous permettre de le joindre afin qu'il nous qu'il nous parle de tous les détails de cette série, la fabuleuse histoire des sciences au Québec, qui est présentée sur Savoir Média, comme je le disais. Alors. Et puis, en deuxième partie d'émission, mon chroniqueur de comic book, Christian Lacasse, qui viendra nous parler de cette histoire fabuleuse de qui? Non, un portrait du personnage de She-Hulk, l'aventurière. Voilà, ça c'est à 16h30. Bon. Et puis après, mon invité, je vais parler un peu de justice sociale et justice climatique, bien sûr. Et puis, il y a la STM qui permet à toute personne voyageant seule ou bien accompagnée d'enfants ou à mobilité réduite peut désormais bénéficier du service entre deux arrêts. Voilà, c'est la STM qui... Depuis le lundi, ça a commencé d'ailleurs. Et puis bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'était auparavant uniquement pour les femmes qui avaient le droit de demander aux chauffeurs de bus à descendre où elles voulaient. Maintenant, tout le monde peut le faire. Qu'on soit seul ou bien accompagné d'enfants ou bien de personnes à mobilité réduite, on peut le faire maintenant depuis le début de la semaine. Oui. Alors, je pense bien que ça va nous permettre de descendre où on veut pour ne pas trop s'éloigner de son lieu d'habitation. Et puis, système solaire, mission DART pour dévier un astéroïde. Des petits télescopes pourraient visualiser l'impact. Voilà, alors on y va comme ça, je ne sais pas ce que ça va donner. Et puis en Angleterre, d'ici 2024, il y aura une autoroute pour drones. J'ai dit bien les drones. Les drones vont avoir leur propre autoroute. Allez-y comprendre quelque chose. Là, je ne sais pas ce que je veux dire, mais je ne sais pas si Maurice a pu le joindre. Il n'est pas joignable. Voilà. Alors là, bon, mais moi, je vais parler de ça. De toute façon, il va essayer encore jusqu'à ce qu'on puisse savoir un peu, effectivement, depuis quand, combien de temps il a mis pour réaliser cette série. Bon, mais je peux parler aussi du mouvement d'éducation populaire aussi, d'action communautaire. Hein. Ça, c'est cette justice sociale et justice climatique. Ça va marcher vraiment au Québec. Il y a pas mal de gens qui vont se mettre dans les rues, surtout les étudiants, les cégepiens. Et les cégepiennes, bien sûr, vont se mettre dans les rues. C'est une manière de dire, ah oui, n'oublions pas cette justice sociale climatique qui alors il y a beaucoup d'organismes qui se sont mis ensemble faire descendre dans les rues. Pas pour tout, pas pour casser, mais juste pour marcher. Pour dire, nous sommes là et écoutez-nous. L'avenir, j'en parlais d'ailleurs avec la déclaration du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui était complètement, pas en colère, mais il avait des mots très forts qui lui permettaient de dire « Nous sommes en danger, faisons l'effort ensemble, on voit ce que ça va donner ». Et puis un peu plus tard, je vais parler d'archéologie, découverte d'un caveau funéraire unique datant de l'époque de Ramsès II. Voilà. Donc, ce sont les autorités archéologiques israéliennes qui ont annoncé la découverte d'un caveau funéraire unique. Ça date de l'époque du pharaon Ramsès II, rempli de dizaines de poteries, d'objets en bronze et d'ossements. Voilà, un cerveau qui a été découvert accidentellement. Voilà, comme ça, hein, le 13 septembre 2022, dans un parc national de Palmaïm, au sud de la métropole de Tel Aviv. Ok, alors qu'est-ce que je voulais dire encore? En attendant que l'invité soit au bout de la ligne, sinon je vais parler de ce documentaire rapidement. 100 ans de science dans la belle province en exclusivité sur Savoir Média depuis le 14 septembre. Hein, ça, allez-y là-bas et puis vous allez voir. Moi j'ai vu, c'est vraiment intéressant. J'ai regardé tous les épisodes de la fabuleuse histoire des sciences au Québec en raison Un chapitre par décennie, cette série exclusive qui retrace l'histoire des sciences dans la belle province, s'arrêtant sur des événements marquants comme la présence du laboratoire nucléaire secret sur les flancs du Mont-Royal dans les années 40 ou l'essor de la psychiatrie criminelle dans les années 70. Il y a deux épisodes consécutifs qui seront diffusés mercredi 22h. Ça commence déjà. Donc la série a également offert savoir.media et Facebook, YouTube pour les amoureux des documentaires. Allez-y. Et puis les amoureux de l'histoire aussi. Ne ratez pas cette opportunité-là. Voilà, réalisateur Michel Barbeau. Voilà, bon, épisode 1 des années 20. Voilà, en avant la science. Et au début des années 20, il y avait une poignée de visionnaires tels Léo Parizeau, Jacques Parizeau et le frère Marie Victorin qui discutent de la fondation de l'ACFAS sur le modèle des sociétés scientifiques comparables aux États-Unis et au Royaume-Uni. Donc leur objectif, c'était d'asseoir les bases d'une culture scientifique forte au Canada, francophone. Oui, un événement qui s'inscrit dans la suite de la création de la faculté des sciences de l'Université de Montréal quelques années plus tôt. Ouais. Et puis dans l'épisode 2, dans les années 30, il y a un vaccin qui va sauver des vies. Donc durant les années 30, il y a la tuberculose, baptisée la peste blanche, qui a fait ravage. Et puis en 1930, bien sûr, je l'ai mentionné, et Armand Frappier fonde l'Institut de microbiologie d'hygiène et d'hygiène de Montréal. Aujourd'hui, l'Institut Armand Frappier, voilà, ayant perdu sa mère aux mains de cette terrible maladie, vaincre la tuberculose sera son grand combat. Ici, c'est toute l'histoire des maladies infectieuses et des efforts pour les combattre que l'on découvre dans l'épisode 2. Un thème qui a des échos, il y a des échos jusqu'à aujourd'hui. Et dans l'épisode 3, oh, j'ai beaucoup adoré, j'ai appris beaucoup de choses. Les années 40, un laboratoire secret sur les flancs du Mont-Royal. Voilà. Alors que la planète est plongée dans la Deuxième Guerre mondiale, ce chapitre raconte la création en 1943 du laboratoire secret de recherche sur les piles atomiques à l'Université de Montréal, qui va rester en activité jusqu'en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. De mettre au point le premier, ça a permis de mettre au point le premier réacteur nucléaire qui pourrait servir de base à la fabrication de la bombe atomique, dont dans l'équipe de recherche d'une centaine de personnes, on retrouve l'un des seuls Canadiens français, Pierre Demers. Et puis dans l'épisode 4, les années 50, il y a une planète plus fragile qu'on ne l'imaginait. De la physique nucléaire. Nous passons dans les années 50 au tout premier pas de la conscience écologique en centrant ce chapitre sur un personnage incontournable de ce mouvement. Pierre Dansereau. C'est en 1957 que le célèbre chercheur publie Biogéographie, Ecological Perspective. C'est-à-dire que c'est la perspective écologique. C'est ça quoi, qui établit de façon claire d'ailleurs et pour la première fois le concept d'écosystème. Ah ouais, ça vient de très loin. Donc c'est un terme qui passera bientôt dans le langage populaire. Et dans l'épisode 5, dans les années 60, voilà, la conscience se fait pop. En 1969, le magazine Québec Science est créé. Ah, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Oui, ouais, ça fait un moment quand même. Avant d'en arriver à sa création, il faut remonter à Marie Victorin, qui a joué un très grand rôle d'ailleurs, et au premier cercle des juges, des jeunes naturalistes qui créent en 1951 une première revue pédagogique. Le jeune naturaliste, reprise par l'ACFA en 1962 pour devenir le jeune scientifique, puis en 1969 par l'Université du Québec qui vient d'être formée pour devenir Québec Science. Dans ce mouvement, la communication scientifique se transforme et le métier de journaliste scientifique apparaît, incarné par Fernand Séguin. Épisode 6, les années 70, oui, la psychiatrie légale prend son essor. Donc en 1971, le Québec devient une figure proue dans le domaine de la psychiatrie criminelle. C'est alors que l'Institut Philippe Pinel voit le jour. Son but, le traitement et la réhabilitation sociale des détenus dont la santé mentale a joué en leur faveur. Le Québec des années 70 va révolutionner notre vision de la criminalité et la justice en empruntant dorénavant un virage plus à gauche. À ce jour, cette institution est devenue un modèle pour le monde entier. Et puis dans l'épisode 7, les années 80, la science se mobilise contre le sida. C'est au début des années 80 qu'apparaît un terrible fléau, le sida. Des chercheurs travaillent alors sans relâche pour trouver un médicament. Bon, dans le courant de cette décennie, les docteurs Bernard Bello et Marc Weinberg participent à l'identification et à la synthèse de l'antiviral 3TC. Encore aujourd'hui, le 3TC, c'est le médicament anti-rétroviral le plus utilisé. Voilà. Épisode 8, les années 90. C'est ce qui fait qu'il y a deux. On va aller jusqu'en 2000. Un nouveau musée, de nouvelles rencontres. En 1992, il y a historiens et archéologues qui sont appelés à mener une étroite collaboration par la création de musée Pointe-à-Calière, du musée Pointe-à-Calière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. Et bon, dans un désir bien innovant de décloisement entre le milieu universitaire et la muséologie, le musée va accueillir les étudiants de deux disciplines et il va les enrichir de découvertes scientifiques qui en échange seront soutenues et vulgarisées. Bon, ces écoles de fouilles contribuent encore aujourd'hui à la démocratisation de l'éveil à l'archéologie. Voilà, et dans le chapitre 9, les années 2000, voilà, le nouveau siècle, quand recherche et militantisme se rencontrent. Ouais, depuis des années, militants, chercheurs travaillent à ébranler les préjugés et nourrir la réflexion sur une foule de sujets. Dans les années 2000, oui, leurs recherches, constats et participation à diverses tribunes permettent une grande avancée. Une grande avancée. Ouais, ça bougeait là depuis ce temps. Hein. Donc le Québec permet aux personnes de même sexe de s'unir sous le régime d'union civile, puis du mariage et ouvre enfin l'adoption à toute personne, quelle que soit orientation sexuelle et état matrimonial. Alors, bravo à ceux qui ont lutté pour ça d'ailleurs. Et puis le dernier épisode, épisode 10, les années 2010, le futur c'est maintenant. Dans ce dernier épisode de la série explore l'émergence d'une nouvelle science au cœur de la métropole montréalaise. L'intelligence artificielle située à l'intersection des mathématiques et de l'informatique, l'IA a été largement développée au Québec. Oui, c'est ce qui fait qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont ici, qui permettent à l'avancement de l'intelligence artificielle d'ailleurs. Ouais. Donc en 2016, on inaugure l'Institut québécois d'intelligence artificielle, MILA, et l'épisode examine maintenant et notamment les enjeux éthiques que soulève cette nouvelle science. C'est entièrement gratuit, hein, Savoir Média, pour vous allez voir les différentes séries de ce documentaire, de cette histoire du Québec francophone. Savoir Média, c'est cet organisme sans but lucratif dont la mission est de propulser le savoir et de nourrir les réflexions des citoyens sur des enjeux de société. Voilà. Allez-y là-bas. Vous allez aussi trouver cette série-là sur YouTube, sur Facebook et autres qui va vous permettre de connaître un peu l'histoire du Québec durant ces 10 épisodes de cette fabuleuse histoire des sciences au Québec. 10 fois 15 minutes, voilà, allez-y, mettez-vous à l'aise, ne vous gênez même pas. We'll be right back. Là, on vient d'écouter Kiss, Frankie Beverly, Joy and Pain, Joy and Pain. Voilà, Joy, la joie, joie et pain. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez? La vie, c'est comme ça. On n'a pas toujours de bonheur, la joie. Il y a les douleurs aussi. Hein. Ouais, voilà, c'est comme ça. Alors, tout de suite, pour partir, là, je vais parler de justice sociale et de justice climatique. C'est le mouvement d'éducation populaire de l'action communautaire du Québec, le MEPAC. MEPAC. Voilà, ainsi que ses alliés, il y a tellement d'organismes qui sont engagés pour le climat, qui sont engagés, pas contre le climat, mais pour le climat. Voilà, ça c'est clair, il faut le préciser. Voilà, qui vont se réunir, il y a des régions de Québec, il y a des villes qui vont marcher aujourd'hui, d'autres c'est demain, et puis d'autres c'est après-demain. Bon, il y aura des milliers de jeunes gens, voilà, qui seront dans les rues. Pour le climat, ça il faut le dire, c'est la justice sociale et la justice climatique, marche pour le climat, n'oubliez pas, ceux qui ont le temps, ceux qui ont envie, ceux pour qui ce thème est important, si c'est un sujet de prédilection pour vous, n'hésitez pas, joignez les jeunes gens, voilà, pour aller marcher, peu importe où est-ce que vous habitez, dans toute la province du Québec, parce que c'est pas seulement à Montréal, c'est pas seulement à Québec, c'est pas seulement à Sherbrooke, ça traverse toute la province et ailleurs dans le monde aussi. Attention, c'est un truc mondial. Voilà. Donc, nos jeunes Québécois, la population québécoise ne va pas se croiser les bras. On ne va pas rester comme ça. Je dis bravo à ceux qui sont derrière l'organisation de ces choses. Parce que là, vraiment, j'ai écouté un peu le débat politique hier. Ils ont brossé un peu, ils ont parlé un peu d'environnement. Mais le temps n'était pas tellement suffisant pour aller. Je vais pas te donner le micro, Maurice, parce que je sais que tu vas rien dire. Tu vas me dire que tu n'as rien à dire. Maurice, c'est mon complice à la régie là-bas. Je donne le micro, il va dire, ah, j'ai rien à dire. Voilà. Donc, pour ceux qui, c'est intéressant, c'est important, l'avenir de la planète, de la nature, notre avenir aussi, et des enfants et des petits-enfants plus tard. Alors, n'hésitez pas, joignez-vous à toutes ces personnes qui vont être dans les rues de la belle province pour marcher pour le climat. Je pense bien que ce serait un beau geste. C'est du sport en même temps. Marcher, c'est du sport. Ça ne peut que faire du bien. Donc, c'est la marche, la justice sociale, la marche pour la justice climatique et sociale. Je vous dis bravo. Et qu'est-ce que je voulais dire encore rapidement? Parce que j'ai quelque chose de la STM, cette histoire cette bonification du service entre deux arrêts, c'est un pas additionnel et en direction de notre objectif, de leur objectif d'offrir des déplacements lors desquels l'ensemble de la clientèle se sent en sécurité. Voilà. C'est comme ça. La STM permet à toute personne dans les bus de Montréal d'avoir le droit de descendre entre deux arrêts, qu'on soit accompagné, qu'on soit personne seule, accompagné d'enfants ou de personnes à mobilité réduite, vous pouvez le faire maintenant. Depuis le lundi, c'est valable. À l'époque, jusqu'à la fin de la semaine passée, c'était uniquement les femmes qui avaient le droit de descendre entre deux arrêts. Maintenant, c'est tout le monde qui peut le faire. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Les gens disent, mais n'abusez pas si vous... Vous ne faites pas arrêter un bus aux deux secondes, là. Non, 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 pour dire, ah, je vais descendre. Non, 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 ce n'est pas comme ça. C'est pour dire simplement, surtout ceux qui, les noctambules dans les bus, pour ne pas trop s'éloigner de leur domicile, peuvent demander au conducteur de s'arrêter pour qu'ils puissent descendre très, très, très près de chez eux. Je dis merci à ceux qui ont pu prendre cette décision, au moins. Bon, archéologie. Je ne sais pas si j'ai encore du temps, au moins quelques minutes. Il y a la découverte d'un cerveau funéraire unique datant de l'époque de Ramsès II. Les autorités archéologiques israéliennes ont annoncé que la découverte d'un caveau funéraire unique datant de l'époque du pharaon Ramsès II est rempli de dizaines de poteries d'objets en bronze et d'ossements. Il a été découvert en début du mois de septembre dans le parc national de Palaïm au sud de la métropole Tel Aviv. Lorsqu'une machine d'excavation a buté sur un morceau de pierre qui s'est avéré être le toit de cette voûte funéraire. Ah, la découverte, on n'en finira pas. Hein. Une vidéo diffusée par l'autorité israélienne des antiquités IAA montre des archéologues, j'ai pu voir la vidéo, c'est tellement a pu montrer les Israéliens ébahis, éclairant à la lampe là, de poche des dizaines de poteries de formes et de tailles diverses datant du règne de l'ancien roi égyptien. L'ancien pharaons. Ouais, c'était des rois égyptiens, là, les pharaons. Morts en 1213 avant Jésus-Christ. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? C'est une découverte extrêmement rare. Des bols, certains peints en rouge, d'autres contenant des os, des calices, des marmites, des bocaux, des lampes et des pointes de flèches ou de lances en bronze se trouvaient dans la sépulture. Donc ces objets-là étaient des offrandes funéraires destinées à accompagner les défunts dans leur dernier voyage vers l'au-delà. Ils ont été retrouvés intacts depuis qu'ils ont été placés il y a environ 3300 ans. Ouais, on dit bravo à cette équipe-là qui a pu faire cette découverte. Bon, c'était une découverte, ils n'ont pas fait de recherche. Vous trouvez ça par hasard, grâce à la machine d'excavation. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je voulais parler de quelque chose encore. Ça, je vais le faire après Christian. Ouais, j'aurai le temps de le faire. De toute façon, les drones, je vais aller un peu plus en profondeur concernant l'autoroute des drones en Angleterre d'ici 2024. Autoroute pour les drones. Oui. Et puis bon, restez à l'écoute après la petite pause publicitaire. Oui, c'est Christian qui est avec moi, chroniqueur de comic book, le monsieur qui, je ne sais pas si sa vie a un sens sans les comic books. Il va vous donner tous les détails quand il en parle, parce qu'il est toujours avec moi en studio. Je vois ses yeux qui brillent. Allez, restez à l'écoute, à tout de suite.
Vous écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
Ah ouais, on est là. Il est là avec moi, le monsieur.
Avec les yeux pétillants.
Avec les yeux pétillants quand il parle de comic book.
Effectivement.
Hein, je l'ai dit, je l'ai taquiné en disant, je ne sais pas si sa vie a un sens s'il n'y a pas de comic book.
Oui. Ben oui, bien sûr.
Bonjour Christian Lacasse.
Monsieur Fulgence, comment allez-vous?
Je vais bien, merci. Alors, tu vas nous faire une révélation aujourd'hui, même pas une révélation, tu vas nous parler de comment du personnage She-Hulk, l'aventurière. J'ai une photo, je l'ai jamais vu sa photo. She-Hulk.
Voilà. Puis, j'ai apporté le premier numéro.
Belle affiche d'ailleurs. Je me suis dit, tu vois. Et quand on
c'était pour titiller Fulgence. Je savais qu'il était pour apprécier.
Allez, je te laisse aller.
Cette semaine, je délaisse un peu le côté historique. Vous parlez de l'histoire ancienne des années 30, tout ça.
Oui.
Et je m'attarde sur le portrait d'un personnage spécifique. Seulement un personnage.
Pourquoi on l'appelle l'aventurière?
Ah, ça, je vais l'expliquer.
Ah ouais, d'accord.
Oui.
Allez, je te laisse aller.
En fait, She-Hulk, c'est un personnage important de l'univers de Marvel Comics.
Oui.
Par contre, c'est un personnage qui n'a jamais véritablement été de premier plan au sein de l'univers Marvel parce que les ventes de ces séries n'ont jamais été extraordinaires. Il y a eu plusieurs séries dédiées au personnage, mais ont connu peu de succès. Malgré tout, She-Hulk a su marquer le comic book à sa façon. Et aujourd'hui, elle est l'objet d'une série télé qui est diffusée en ce moment sur Disney+. Je ne suis pas ici pour vous faire une critique de la série. De toute façon, je ne l'ai pas encore écoutée.
Oui.
Mais je vais vous parler du personnage et comment elle a pu marquer le comic book.
Oui.
Bon, premièrement, ses origines, et tu tiens le comic dans tes mains, c'est bien.
Mmh.
Si le personnage avait été créé aujourd'hui, on dirait il faut avoir une version féminine de l'incroyable Hulk par souci d'égalité pour donner une voix aux femmes, avoir un modèle pour attirer l'attention des lectrices, avoir des lectrices féminines.
Mmh.
Ça, c'est si She-Hulk avait été créé aujourd'hui, mais non, pas du tout. C'est pas du tout la raison pourquoi elle a été créée en 1980. C'est aucunement dans un but d'égalité, mais c'est plutôt à cause de droits d'auteur. Alors, je vous ramène dans le temps.
C'est une affaire de droits d'auteur.
Voilà. Okay. En 1977,
oui.
Avec les débuts d'une toute nouvelle série télé au réseau américain CBS, l'incroyable Hulk, mettant en vedette Bill Bixby dans le rôle de Robert Banner et Lou Ferrigno dans le rôle de l'incroyable Hulk, teint en vert avec une perruque complètement affreuse.
Oui, je vois cette couleur verte là ici.
Voilà, j'ai toujours eu une affection particulière pour le personnage de Hulk, mais j'étais pas capable de regarder cette série, ça me faisait trop peur. Oui. À l'époque, la transformation de Banner en Hulk, ça me faisait peur, mais j'étais jeune enfant. Mais la série est un succès instantané, elle a été diffusée de 1977 à 1982. Le problème, le succès de la série rendait Stan Lee nerveux. Stan Lee, le légendaire créateur d'une bonne partie des personnages marquants de Marvel à partir des années 60, il était l'éditeur en chef chez Marvel dans les années 70. Donc pourquoi il était nerveux? À cause du succès de la série, il a commencé à avoir des rumeurs que le réseau CBS était pour commander une série télé dérivée de l'incroyable Hulk.
Il s'attendait pas à ce succès?
Voilà. Mm-hmm. Et on dit qu'il va y avoir une série dérivée avec un personnage Hulk au féminin. Et si ça se produisait, le réseau CBS aurait les droits d'auteur, non seulement de la série, mais sur le personnage, parce qu'il n'y avait pas de personnage féminin Hulk à l'époque dans Marvel Comics. Depuis, il y avait un précédent, quelques années auparavant, le réseau ABC diffusait la série télé de Six Million Dollar Man, et le réseau avait demandé une série dérivée, qui est devenue plus tard The Bionic Woman, la femme bionique. Donc, Stan Lee décide de créer une version féminine du personnage de Hulk, et c'est en février 1980 qu'est publiée la première apparition dans The Savage She-Hulk numéro 1. Et ça s'avère être la dernière héroïne créée par Stan Lee.
C'est-à-dire qu'après, il n'y a plus rien d'autre.
C'est-à-dire que Stan Lee n'a pas créé d'héroïne. En fait, il a créé un personnage en 1992, donc c'est vraiment un de ses derniers personnages créés par lui-même.
OK.
Donc, le premier numéro est écrit par Stan Lee, illustré par John Buscema. Et sur la couverture, on y voit le personnage principal de la série, une femme normalement vêtue, et derrière elle, c'est son alter ego, une femme gigantesque à la peau verte, maillot de blanc, oui, déchiré, l'allure menaçante avec des gens en panique tout autour. C'est un hommage au premier numéro de la série L'Incroyable Hulk de 1962. À partir du numéro 2, c'est David Anthony Kraft qui prend la relève de l'écriture et Mike Vosburg au dessin. Mais qui est donc She-Hulk? Elle s'appelle en fait Jennifer Walters et c'est la cousine de Bruce Banner, donc l'incroyable Hulk.
Oui.
Elle est avocate et un jour, elle est prise pour cible par des membres de la mafia. Elle est gravement blessée. Son cousin Bruce Banner est en visite au même moment. Il tente de l'aider, réalise que seule une transfusion sanguine pourra lui sauver la vie. Ça fonctionne, elle est sauvée, mais les mafieux se présentent à l'hôpital afin d'achever Jennifer. Elle est prise de colère et se transforme soudainement en grande femme imposante à la peau verte.
Ça se voit. Moi, ce que j'ai en face de moi, là, vraiment, c'est...
Ça te terrifie!
J'aimerais pas la rencontrer seule en pleine nuit, quoi.
Voilà. Quoique.
Non.
Donc, c'est à ce moment que She-Hulk entre en scène. Oui, voilà!
Tu vois, c'est comme ça, ouais.
En tant que She-Hulk, Jennifer possède les mêmes pouvoirs que son cousin, mais à un niveau réduit. Donc, une force surhumaine. Elle possède également une apparence moins monstrueuse que Hulk, plus amazonienne.
Oui.
Au début, la transformation en She-Hulk est déclenchée par la colère ou le stress, comme pour son cousin. Mmh. Puis on explique un peu plus tard que la raison pourquoi elle se transforme en amazonienne et non en monstre, ça provient de son désir subconscient de ressembler à la femme idéale.
Ah.
Et d'ailleurs, She-Hulk a été personnifiée comme la femme idéale à travers le temps dans les comics de Marvel. Un peu plus tard, elle finit par prendre le contrôle de ses transformations et décide de conserver sa forme She-Hulk de façon permanente. Elle préfère la liberté, la confiance, l'assurance que ça lui donne par rapport à sa forme normale qui est plus craintive et plus fragile.
Oui, parce que là, il y a deux photos qui sont là. Il y a deux images. Bon, ça, c'est... Voilà, cette image ne m'effraie pas du tout, mais
voilà.
Elle est peinte en vert.
Voilà.
Non, moi personnellement, je serais trop petit à côté d'elle en plus. Non, c'est vrai, mais parce que là, ça c'est le respect même qui est là, quoi.
Exact.
Tout homme qui va la voir arriver, bon, si c'est un vrai personnage dans la vie de tous les jours.
Exact.
On a le temps, Christian.
Ouais. La série de Savage She-Hulk est publiée pendant 2 ans et s'arrête au numéro 25. Les ventes ne sont tout simplement pas au rendez-vous. Par la suite, le personnage apparaît dans diverses séries en caméo dans The Avengers. Puis, point tournant pour le personnage, She-Hulk devient membre des Fantastic Four en 1984 jusqu'en 1987, principalement à cause de l'affection particulière que porte l'artiste et auteur canadien John Byrne au personnage. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de l'effet John Byrne. Et c'est ça qui est marquant pour le personnage de She-Hulk. Son apport est important, l'apport de John Byrne. Avant, côté personnalité, est souvent de mauvaise humeur, violente. Avec John Byrne, She-Hulk devient amusante, gentille, empathique, toujours fougueuse et qui utilise, oui, fréquemment l'humour lorsqu'elle se bat. Elle est également élégante, sexy et même coquine. Faut comprendre.
Oui, dans cette deuxième image qui est là, là, c'est très ce côté-là, coquin.
Ouais, mais il y a plus que ça.
Il y a plus osé que ça.
Et il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est dans les années 80. Mm-hmm. Le comic book, même quand il est question de protagonistes au féminin, ça s'adresse à des adolescents et des préadolescents, donc un lectorat masculin.
Oui.
Donc le côté flirt qu'apporte Byrne à She-Hulk, c'est pour attirer l'attention au personnage, lui donner une valeur autre qu'être la simple copie féminine d'un personnage qui est encore plus populaire. Okay. Son affection à Byrne est telle qu'il exige le retour d'une série solo pour She-Hulk. Donc, en 1989, Marvel publie The Sensational She-Hulk, la sensationnelle She-Hulk, et ça va durer 5 ans. Deux aspects marquants de la série. D'emblée, on catégorise la série comme un comic book humoristique et satirique. Ça multiplie les situations farfelues, les personnages qui apparaissent au sein de la série sont les plus obscurs et les plus ridicules de tout l'univers Marvel. Et le plus important, la série se fait un devoir de briser ce qu'on appelle le quatrième mur. Qu'est-ce que le quatrième mur? C'est quand un personnage décide de s'adresser directement au public. Par exemple, le meilleur exemple que je peux te donner, sur la couverture du Sensational She-Hulk numéro 1, on y montre She-Hulk, une copie de son ancienne série de 1980 à la main,
oui.
Et elle dit directement au lecteur, « OK, c'est votre deuxième chance. Si vous achetez pas ma série cette fois-ci,
oui,
je vais chez vous et je détruis toutes vos copies de X-Men. »
D'ailleurs, je vois un peu le visage des gens qui sont là, mais qui n'a pas peur d'elle. C'est un montage.
Ouais, voilà. Ouais, voilà.
Même si c'est pas un montage, tu dis, mais oh, mais celle-là, elle me fait peur. Ah oui.
Mais à partir de 89, l'autre série, ça fait beaucoup moins peur. On mise plus sur l'humour et le côté dérision. Donc, la couverture que je viens de décrire, oui, ça donne le ton pour le reste de la série. Byrne utilise la brisure du quatrième mur à son avantage.
Oui.
She-Hulk devient consciente qu'elle est dans une bande dessinée. Elle déchire les pages pour sauter des parties de l'intrigue. Elle demande qu'on passe à une sous-intrigue pour voir ce qui se passe avec les autres personnages. Elle interagit avec Byrne et les éditeurs de Marvel et se plaint quand l'intrigue fait aucun sens. Quand je parle de personnages qui brisent le quatrième mur, vous allez peut-être penser tout de suite, ceux qui sont férus dans le comic book, au personnage de Deadpool, qui a eu plusieurs films et séries à son effigie. Mais il ne faut pas oublier que She-Hulk le faisait bien avant lui. Je le mentionnais plus tôt, le côté coquin, sexy. Dans la série Sensational She-Hulk, She-Hulk n'a pas vraiment de costume de super-héros, mais plutôt une garde-robe actuelle. On la montre comme une... souvent qui prend la pose, comme un top modèle. Elle devient en sorte une pin-up girl à la peau verte. C'est une femme assumée dans sa féminité, consciente et délibérée dans ses taquineries, mais jamais une victime. Mais c'est encore une fois, c'est une tactique marketing. Ça fonctionne quelque peu.
Surtout que les 99% des lecteurs, c'était...
Des hommes.
Des hommes.
Voilà, des jeunes.
C'est à des jeunes. Voilà,
exact.
Voilà,
donc, les ventes sont peu impressionnantes. Les gens chez Marvel commencent à s'impatienter. Mm-hmm. On sait que la série est intéressante, mais peu sont intéressés. Et à un certain moment, il y a quelqu'un au sein de Marvel qui lance à la blague, qu'est-ce que ça va prendre pour que les gens achètent She-Hulk? Qu'elle saute la corde à danser complètement nue? Et ça donne une idée à John Byrne. Question de tenter de mousser les ventes.
Mm-hmm.
Donc, sur la couverture du numéro 40, on laisse sous-entendre que dans les pages du numéro, on va montrer She-Hulk en train de faire de la corde à danser complètement nue. Mais il n'y a jamais eu de nudité dans les comic books de Marvel Comics.
Oui.
Donc, on parle donc d'une nudité sous-entendue. Et ce qu'on montre à la place, c'est She-Hulk qui saute à la corde. Mais toute son intimité est cachée par des lignes de mouvement.
Oui.
Et ça dure seulement pendant 4 pages. Puis un personnage qui intervient, qui révèle que She-Hulk n'est pas nue, elle a un bikini et elle dit, et je cite...
Il était déçu. Quelqu'un l'a dit.
Quiconque est assez stupide pour penser que tu étais pour sauter à la corde nue mérite d'avoir gaspillé son argent de toute façon.
Oh,
donc voilà.
Publicité, voilà.
On l'admet, c'est un coup de publicité.
Oui.
Cette façon-là de titiller le lecteur, c'était pas mal vu à l'époque. Mmh. Aujourd'hui, ça serait mal vu.
Non, ça passe pas. Aujourd'hui, ça passe pas.
Voilà. Oui. Mais ça faisait partie d'un mouvement de sexualisation des personnages féminins, mouvement qui a dominé le comic book dans les années 90. Encore une fois, c'est parce que le lectorat était majoritairement masculin. Mmh. Ensuite, dans les années 2000, il y a eu sa phase avocate idéaliste. C'est l'auteur Dan Slott qui prend les commandes du personnage à partir de 2004. Il fait de She-Hulk une série juridique fantastique. Mm-hmm. Elle devient une nouvelle avocate pour un cabinet spécialisé dans les droits des super-héros.
Oui.
Elle est idéaliste. Elle a l'habitude de défendre les droits de toutes les personnes affectées par la présence de super-héros et de super-vilains dans la communauté.
Oui.
Donc, il y a un côté plus humain, plus... plus du temps. Dans les années 2000, on est plus... On pense aux autres. C'est moins une série d'action, plus une série introspective. Elle tente de... Comment dire? On a déplacé le regard de She-Hulk du lecteur vers elle-même et se demande pourquoi elle préfère être She-Hulk versus sa forme humaine. Et elle vient en paix avec sa forme humaine au sein de cette série-là. Ensuite, à partir des années 2010, on a tenté de reprendre d'autres séries de She-Hulk. Peu de succès. On a changé son look. On a passé la couleur de sa peau du vert au gris. On lui a donné une apparence monstrueuse. Et tout ça s'est fait dans un seul but, de faire différent. Ça n'a pas fonctionné.
Ça n'a pas accroché.
Une des raisons qui pourrait expliquer pourquoi She-Hulk a de la difficulté à s'établir comme une série à succès, il y en a plusieurs. Mais à la base... C'est un personnage intéressant, voire même charmant, mais She-Hulk n'a pas tout ce que les super-héros à succès ont, c'est-à-dire de bons personnages de soutien et une panoplie de super-vilains attitrés, captivants. Quand on lit She-Hulk, on s'en tient pas mal à She-Hulk. C'est pas inintéressant, mais l'intrigue est moindre, surtout quand le personnage est assez invulnérable.
Alors, vous avez dit que les lecteurs de comic book sont pas habitués à ça.
Exact. Mm-hmm. On est habitué à s'en faire, non seulement sur le héros, mais les personnages de soutien.
Oui.
Lorsqu'un vilain s'attaque, par exemple, au patron du héros, tout ça, on est investi, tandis que pour She-Hulk...
Dans son cas, tout tournait autour d'elle.
Exact. Exact. Donc, en terminant, She-Hulk...
Pour terminer, oui.
C'est un personnage intéressant, important dans l'univers Marvel, mais qui a jamais connu... de gros succès commercial, malgré plusieurs tentatives, comme je l'ai expliqué. Mmh. Aujourd'hui, les versions les mieux appréciées sont celles de John Byrne et de Dan Slott. D'ailleurs, la série sur Disney+, c'est un amalgame des deux versions. Reste quand même que je considère She-Hulk comme l'aventurière clin d'œil à la peau verte. Aventurière parce qu'elle multiplie les aventures, les péripéties et même certaines aventures d'un soir. Et le clin d'œil, ben, c'est qu'elle le fait toujours avec confiance, humour, charme, et une touche de sex appeal.
Oui, et puis cette couleur verte, ça lui va très bien. Non, c'est vrai. Mais moi, je trouve pas monstrueux, mais elle fait peur. Ça dit la position, ce que moi j'ai en face de moi là.
Oui, mais ça c'est le premier comme numéro, comme je te dis.
Oui.
Au début, on voulait la montrer comme le penchant féminin de Hulk, donc elle est monstrueuse et agressive.
C'est ça.
Je pourrais te montrer d'autres images du personnage. Et là, elle est carrément séductrice, là. Prendre la pose comme un top modèle.
Elle qui est là, devant, juste là, si c'est elle, si c'est She-Hulk qui est là, dans cette tenue-là, l'autre tenue-là.
Ouais.
Là, c'est quelque chose d'autre.
Ouais, mais c'est, faut avouer que cette tenue-là, pour le premier numéro, c'est une tenue des années 80, là. Ça fait très 70, là, les pantalons éléphants, tout ça, là.
C'est ça. Mais ça revient. Je vois pas mal de jeunes filles.
C'est de son époque.
De jeunes filles dans les rues de Montréal qui ont des pantalons éléphants, ça dit les ballards,
ouais.
Voilà. Merci beaucoup à toi.
Ben, ça fait plaisir.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte.
Absolument.
Dans le comic book.
Merci, bonne semaine.
Merci à toi. Bon week-end. Yeah. Et Chucky Booker, le titre de la pièce qu'on vient d'écouter, c'est Games, au pluriel, les jeux. Voilà, bon, comme je disais en début d'émission, je reviens sur cette histoire du drone. Autoroute en Angleterre, une autoroute pour drone d'ici 2024. La start-up Altitude Angel a reçu l'autorisation du gouvernement britannique d'établir un couloir aérien sécurisé pour les drones. Je sais pas, mais voilà, ça va très... On verra bien ce que ça va donner. Il y a d'autres pays qui vont imiter ça plus tard. N'importe quel opérateur de drone pourra y insérer des aéronefs autonomes grâce à des technologies interopérables. Interopérables, ça c'est intéressant. Donc cette autoroute d'un nouveau genre que le gouvernement britannique vient d'autoriser, longue de 265 kilomètres, va relier d'ici 2024 les villes de Reading, Oxford, Milton Keynes, Cambridge, Coventry et Rugby dans le sud-est de l'Angleterre. Donc, le projet a été annoncé officiellement en juillet dernier d'ailleurs par le ministre des entreprises Kwasi Kwarteng au salon d'aéronautique de Farnborough. Et puis pour cause d'ailleurs, il s'agit d'un couloir aérien où pourront voler des drones en toute sécurité. Le projet Skyway à 120 mètres d'altitude, 400 pieds. Quelque chose comme ça, la mise en œuvre sera assurée par un consortium mené par la start-up Altitude Angel, spécialiste des technologies de gestion de trafic de drones, avec entre autres British Telecom pour la partie connexion 4G et 5G. Intéressant, non? Voilà, pourquoi pas. Au début, je me rappelle bien, il y a quelques années, quand les jeunes gens jouaient avec les drones dans les rues, dans leur quartier, tout le monde les critiquait. Oui, surtout non loin des aéroports, bon, c'est pas bon, ça va créer des c'est dangereux, faut pas. Maintenant, c'est une des engins, même des avions de guerre, des outils de guerre, les drones. C'est tout est, il y a eu, le développement a été tellement fulgurant qu'en fin de compte, tout le monde va de l'avant avec l'évolution de la technologie. Un espace aérien partagé, nuance de taille. Il ne s'agit pas d'un espace réservé aux drones, mais bien d'une zone partagée par les types d'aéronefs avec ou sans pilote à bord. Voilà, c'est ça. Donc ça va en l'occurrence déployer la solution qu'elle a déjà mise en place au sud de Reading en 2020, un couloir de 500 mètres de large et 8 km de long appelé Aerodrone Zone, où les drones à basse altitude partagent l'espace avec les avions conventionnels. Bravo à cette équipe, à cette jeune compagnie qui va créer la première autoroute. Et on dit bravo aussi au gouvernement britannique d'avoir autorisé, donné la licence sur combien là 265 kilomètres. Ah, il faut le faire. Hein. Bon, maintenant, je vais parler un peu du système solaire rapidement pour les quelques dernières minutes qui me restent, les trois dernières minutes. Mission DART pour dévier un astéroïde. Des petits télescopes pourraient aussi visualiser l'impact. Dans la nuit du 26 au 27 septembre, là, bientôt, là, la fin de semaine prochaine, si je me trompe pas. Peu après minuit, la sonde DART de la NASA devrait percuter un astéroïde afin de tester pour la première fois une technique de défense planétaire. Ça veut dire quoi? L'événement sera scruté par une batterie de puissance télescope, mais selon les récents calculs, il pourrait être observé aussi par des astronautes amateurs et des plus modestes instruments. Lancé en 2021 depuis la base militaire de Vandenberg en Californie, la sonde américaine DART Double Asteroid Redirection Test, qui signifie également fléchette en anglais, est désormais toute proche de sa cible, donc l'astéroïde Dimorphos, qui mesure 160 mètres de diamètre et orbite à quelques 11 millions de kilomètres de notre planète. Objectif de la mission, c'est percuter de plein fouet cet astéroïde, afin de tester notre capacité à dévier un objet céleste menaçant. Une première dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est un nanosatellite au plus proche de l'impact. Si tout se passe comme prévu, la collision devrait se produire dans la nuit du 26 au 27 septembre à minuit 14 minutes, très précisément heure de chez nous, il fera quelle heure? Heure de Paris en France. Et chez nous, il fera... Oh oui, pardon? Moins 6. Ouais. Voilà, 6 heures du matin. C'est ça. 6 heures du matin. 6 heures du soir, pardon. Pas du matin, du soir. 18 heures. C'est minuit là-bas, il est 18 heures ici. Voilà. Donc, ce sera observé depuis l'espace par le nanosatellite LICIA Tube Light Italian Tube Start, et qui va embarquer par la sonde DART et larguer peu avant le crash. Et depuis la Terre, bon, par exemple, par une batterie de puissants télescopes internationaux comme le Lovell Discovery aux États-Unis et l'Observatoire de la Las Campanas au Chili. Merci à toi, Maurice. Bonne fin de semaine. On se retrouve lundi. Et merci à Christian Lacasse qui vient nous parler de cette aventurière dans le comic book. Et merci à tous nos fidèles auditeurs qui nous suivent depuis le début de cette émission. Prenez soin de vous. Profitez bien du week-end, de la fin de semaine, bien sûr. Faites attention, il y a le marathon de Montréal. Il y a des bruits qui seront barrés. Allez, sur ce, je vous dis ciao et prenez soin de vos minutes. À bientôt.